Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station le mercredi sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Épargner aujourd'hui, c'est préparer demain, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98FM en Ile-de-France et en DAB+, et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public. Au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, IDFM Radio et Big Bang Station. Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, télé, culture pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons d'épargne. Pour une fois, on fait un sujet éco. C'était pas facile, mais ça y est, après 3 semaines de travail, nous sommes arrivés à faire une émission...
Ah bah complètement dingue, bonjour à tous. Toutes les semaines, on essaie de vous éclairer, de vous informer de A à Z, un sujet, je pense, qui va intéresser un grand nombre de personnes, mon cher Didier.
Nous y sommes arrivés.
Effectivement, on confirme.
Petit Manu nous racontera l'invention de l'épargne en France.
Bah tout à fait, je crois que t'as tout dit, et on sait, non, mais au niveau des explications, c'est notre affaire.
Toi, c'est l'origine. Hein.
Voilà, l'origine.
T'étends pas trop sur le sujet.
Non,
Reste-en aux origines de l'épargne.
Voilà, c'est ça. Après, il y a les collègues qui vont en parler. Eh ben, en tout cas, je vous en parlerai, les origines, peut-être que vous n'avez pas. Eh ben, c'est bon, jamais. Vous allez apprendre. On apprend de tasse. Bonjour à tous. Bonne chance.
Cette émission va être centrée sur la France.
Eh ben, on précise, voilà, tout ce qui se passe en France. Voilà.
Marie-Christine nous éclairera sur le contrôle de l'épargne par l'État.
Jusqu'où l'État contrôle-t-il votre épargne en 2025? C'est toute la question, je vais essayer de vous y répondre.
Comment bien épargner, avec quels produits? Pour répondre à ces questions, nous aurons Nathaniel Ohaillon de France Épargne au téléphone. Épargner, c'est la sécurité, Ponari.
Salut Didier, salut à tous. Quand on vous parle d'épargne, on oublie souvent une chose essentielle. Épargner, ce n'est pas se priver, c'est se protéger. Ce n'est pas renoncer au présent, c'est sécuriser l'avenir. Et ça ne commence pas avec de grosses sommes, mais avec un état d'esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que mettre de côté, même un peu, c'est bien plus qu'un geste financier. C'est une façon de créer sa liberté, son autonomie, sa sérénité.
Et pour notre page culture, est-ce qu'on a trouvé des musiques qui parlent de l'épargne? Est-ce que ça existe? Kevin nous proposera un quiz.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Vous savez, il y a aussi épargner quelqu'un.
Ça sur sujet.
Mais... C'est ça, mais épargner. Mais l'épargne sur le plan financier, c'est pas toujours évoqué en chanson, mais je vous ai quand même sélectionné quelques titres que nous allons écouter tout à l'heure.
Ah, t'as quand même réussi à trouver.
Oui, enfin, épargne et argent. Bon. Ça se rejoint, ça se relie.
Et quels sont les personnages de séries auxquels vous pourriez confier votre argent?
Picsou.
Stani va nous dévoiler la liste dans un instant. Que Picsou, c'est plutôt de la BD, justement, dans la culture pop, plus précisément en BD et en dessin animé. Qui épargne le plus à votre avis? Tu l'as dit, Marie-Christine.
Picsou.
Ben, c'est Picsou. Ah ben voilà, exactement.
Et c'est Eric qui va nous en parler.
Tout à fait, Didier. Salut à tous. Aujourd'hui, intéressons-nous dans ma chronique à Balthazar Picsou, plus exactement à sa fortune grâce à son épargne. Et oui, comment ce canard épargne-t-il pour avoir 5 billions, quintuplions, diversimillions, multiplatillions? Impossible, lion fantastique, lion de dollars. Réponse dans ma pop chronique.
Et l'émission plus jamais par Didier qui contrôle tout.
C'est qui?
Oh, quelqu'un qui parle bien. Ouais.
Mais Didier, comment?
Mais gars, voilà. Pour préciser.
T'as pas écorché mon famille, bravo.
Didier.
Mais gars.
Voilà. Ah bah tu vois, Marc-Christine te dit bien aussi. On arrive pour dire que notre famille.
Non mais il y a des gens qui disent méga.
Ah bon?
M-E-S-G-A-R-D.
Ah bah oui, il y a peut-être la liaison particulière. Kevin,
ne me demandez pas pourquoi on dit Mesgar, je n'en sais rien.
Bon, bah voilà.
Parce que
c'est
un S entre une voyelle Une consonne, ça fait...
Bah
non, justement,
ça fait S.
Bah là, ça fait Z.
Ouais, voilà, voilà.
Pourquoi menu?
C'est des règles
de procès. C'est des nobles.
C'est des nobles, voilà, comme ça.
Il n'y a pas tellement de règles pour les noms de famille.
Bah oui, ça s'explique pas, c'est universel. On a nos familles, il y a héréditaire, c'est comme ça, c'est pas trop bon.
Toi, Ploquin, t'es de la famille des Ploquins?
Bah oui, enfin, c'est...
Un Ploquin, tu sais qui c'est?
Oui, c'était un petit moteur, j'ai vu ça dans un bateau, et oui,
un moteur.
Les moteurs comme ça, c'est Ploquin comme ça, j'avais vu ça comme ça, voilà. Bon. Ça veut dire bagarreur. Je sais pas si c'est le mot bagarreur.
C'était pas Molière aussi?
Ah non, c'est Jean-Baptiste Poquelin.
Ploquin. Il y a une lettre qui s'est barrée.
Une lettre en moins.
Voilà, il y a une lettre qui s'est barrée, Manu.
Bah oui, voilà, voilà.
Des choses comme ça. Elle est venue en avant au lieu d'être en arrière.
Il y a des choses comme ça, ça ne s'explique pas.
Rien à voir.
Rien à voir.
Dans une société où consommer est devenu un réflexe, épargner reste un défi quotidien pour beaucoup d'entre nous. Mais d'où vient cette idée de mettre de l'argent de côté? Parce qu'avant, on n'en mettait pas du tout, à part peut-être les rois. Et comment le livret d'épargne a-t-il révolutionné nos habitudes? Petit Manu nous raconte cette belle histoire.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Baraka Obama.
Donald Trump. Il arrive. Milton.
David Bouillet. Joe Cocker. Justin Tiberlin.
Lady Dada.
Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux, ça. Non.
Quoi?
Alors, toute personne confondue, après cette très bonne introduction, l'épargne de... plutôt l'invention de l'épargne avec le livret d'épargne A1, voilà. C'est même jaune, bien souvent, voilà. Savez-vous que cette petite merveille de l'épargne a une histoire vraiment touchante? Tout a commencé en 1818 à Paris. À l'époque, si c'était ouvrier, mettre de l'argent de côté, c'était mission impossible. Avant, déjà à ce moment-là, les banques s'étaient réservées aux bourgeois et aux hautes... ça veut dire aux personnes qui avaient peut-être de l'argent. Et un groupe de philanthropes se dit...
Pas de filou.
De quoi? Ah
non, philanthrope. Non.
Oui, c'est philanthrope.
Donc t'allais dire filou.
Ah, pas du tout. Philanthrope, j'ai bien des mots chers. Voilà, ils regardent avec grande curiosité. Je pétille. Et si on crée quelque chose pour les petits gens?
Voyons. C'était déjà socialiste.
C'est précis. Voilà. Voilà. Ils jouent et... Les premières caisses d'épargne ressenties. L'idée est de couturière de déposer ne serait-ce quelques sous. Le premier jour, ils eurent 5 déposants. 5. Mais l'idée est géniale. Tout argent était en sécurité. Il rappelait des intérêts et surtout, tu pouvais retirer ce que tu voulais quand tu voulais. Donc j'ai l'impression qu'il y a un esprit de liberté à ce moment-là. Il y a eu comme un esprit de liberté. Alors, il y a un certain temps après, en 1881, boum, naissance du fameux livret A. Ah bah alors là, une sacrée découverte. À quand on connaît tout. Et tenez-vous, et après, ce petit carnet bleu a traversé 2 guerres mondiales, des crises économiques, des révolutions technologiques. Et...
Parce que moi je l'ai connu jaune.
Ah bah ouais, justement, moi bon aussi.
Bleu et jaune.
Ah bah moi j'ai connu bleu jaune. Bleu. Bah, comme quoi,
là, bleu avant.
Ah bah comme quoi, c'est vrai qu'il y a une évolution. Et à la prochaine fois, on regardera le livret. Voilà. Non mais moi j'ai connu le livret jaune, mais comme quoi, t'as connu le livret bleu?
Oui.
Et toi, Poudari?
Non, le jaune.
Ah bah voilà, moi aussi.
Bon,
j'ai
connu
aussi jaune. Bah voilà. En tout cas, voilà l'histoire, l'introduction, faut savoir. Et bah peut-être dans le monde, la planète. Eh ben, vous allez avancer, vous aurez appris quelque chose de nouveau. Eh ben voilà, bon, ce qu'il faut savoir, je vous ai bien expliqué l'arrêt. À toi la parole, Didier.
Oh, ça m'a fait quelqu'un. Merci, Petit Manu.
Avec grand plaisir.
En France, l'État contrôle l'épargne des citoyens, surtout via les taux des livrets réglementés, les plafonds et la fiscalité. Les Français ont environ 956 milliards d'euros sur des livrets comme le livret A, le LDDS ou PEL. Jusqu'où l'État contrôle-t-il notre épargne? La réponse avec Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Jusqu'où l'État contrôle-t-il notre épargne en 2025?
La question est d'autant plus sensible que la dette publique s'élève désormais à plus de 115% du PIB et que beaucoup s'interrogent sur la sécurité de leurs économies.
Sur qui plutôt?
Et leurs économies sont bien sûr dans les banques. Pendant la Première Guerre mondiale, l'État français exerçait un contrôle financier massif sur l'épargne des citoyens pour financer l'effort de guerre. Environ 74% des dépenses de guerre ont été couvertes par l'emprunt, principalement auprès des particuliers, via des bons du Trésor et des emprunts nationaux. Les périodes récentes, telles que la crise de la Covid-19, ont vu une augmentation du taux d'épargne des ménages français, mais sans une mobilisation forcée par l'État. L'État aujourd'hui contrôle moins l'épargne des citoyens dans le sens d'une mobilisation forcée, patriotique ou de guerre. Il y a eu peu de mesures légales qui obligent les particuliers à prêter à l'État, sauf dans des cas très exceptionnels. Et les voici, les cas exceptionnels.
Ah. Attention,
on va découvrir.
Il y a la guerre, un truc comme ça.
Imposition exceptionnelle sur le patrimoine, sur les revenus financiers.
Oui.
En période de crise grave, l'État peut instaurer un impôt exceptionnel. Ça vous rappelle quelque chose actuellement?
Oui, et puis on est en crise grave là.
Eh ben oui,
un impôt exceptionnel sur la fortune ou
oui,
sur l'épargne au-delà d'un certain seuil. Par exemple, en 1945, une telle contribution a été imposée pour redresser les finances publiques.
Oui.
Tranquille, là. Deuxièmement, une augmentation de la fiscalité sur les produits d'épargne. L'État peut décider de taxer davantage les produits d'épargne, les placements financiers, afin de financer des besoins urgents.
J'ai l'impression qu'ils décident les taxes. C'est eux qui décident on peut, on peut pas. C'est ce sentiment-là.
C'est ce que j'ai dit.
D'accord.
C'est que finalement, nous ne sommes pas libres de notre épargne. On le confie aux banques et l'État, eh ben, il fait ce qu'il veut.
Ouais, il dit on peut, on peut pas.
Mais vous avez bien fait de me le donner.
Ouais, je demande parce que pour bien comprendre.
Alors, il y a une hausse des prélèvements sur les intérêts des livrets d'épargne, par exemple, le livret A, etc. Une augmentation de l'imposition sur les dividendes et les plus-values boursières. Une création d'une taxe exceptionnelle sur les assurances ou certains placements. Ça nous rappelle quelque chose actuellement. Troisièmement, restreindre temporairement l'accès à certains fonds. En cas de crise financière sévère, l'État peut décider de limiter temporairement les retraits sur les produits d'épargne. Ensuite, encourager l'épargne patriotique ou obligatoire. Lors des périodes de crise ou de conflit, l'État peut proposer des emprunts nationaux ou des fonds d'épargne dédiés à la reconstruction ou à l'effort de guerre. L'État ne force plus, à part ces mesures exceptionnelles, mais le contrôle s'est déplacé de la contrainte directe vers une structure des règles, incitation, fiscalité, réglementation, ce qui peut être vu comme plus subtil, mais souvent tout aussi puissant. Voilà. Donc le contrôle par l'État est très important.
Et puis je dirais quelque chose, Marc. Mais avant, je n'ai jamais su si on pouvait retirer l'argent. Mais maintenant, il dit faut des cartes. Hein. On ne donne pas l'argent comme ça pour montrer une carte d'identité.
Oui, et puis
des
tu
cartes.
Peux pas retirer non
bah
plus
oui, exactement.
10 000 euros d'un coup. Hein.
Oui, évidemment.
Non, on est très limité.
Ah bah oui,
et on te demande pourquoi c'est fait.
Ah bah oui, il faut une enquête. Ça
et deuxièmement,
une
et en cas de crise, tu as, je crois, 70-80 000 maximum à retirer.
Oui,
le reste à dégager.
C'est très surveillé, Didier. C'est important de le préciser.
Et je crois qu'on n'a pas le droit d'avoir à vérifier d'argent sur soi, en liquide chez soi. Beaucoup.
Ah, c'est bon.
Les matelas de billets, c'est fini.
C'est fini.
Ah, bah ouais. Donc c'est très limité.
T'as des billets dans ton matelas?
Non, je n'ai jamais eu. Alors là, j'apprends.
T'as quoi dans ton matelas? De la mousse?
Bah, quelque chose pour bien dormir. Ouais, pour pas avoir un mal au dos.
Mais pareil que c'est des billets de 500, c'est moelleux. Tu devrais essayer.
Ah, j'apprends. T'as essayé de billets?
Non, j'en ai qu'un billet de 500, j'en ai pas trop.
Ah bah, faut le garder, moi je le découvre.
Mais si tu mets plein de billets de 500, c'est très moelleux pour dormir.
Mais il y en aura bientôt plus.
Ah bah,
bientôt, il faudra payer tout par carte bancaire.
Ah bah, exactement.
Voilà. Et l'argent liquide va disparaître.
Un jour ou l'autre, ça serait une opportunité.
Tous les flux financiers passeront par les banques et le contrôle de l'État sera partout.
En tout cas, on a appris beaucoup grâce à toi.
Eh ben, merci Marie-Christine. Et en comparaison, en Allemagne, une partie de l'épargne est investie dans des produits moins réglementés, offrant aux ménages une plus grande autonomie. Donc, bien que la France dispose d'une épargne des ménages comparable en volume à celle de ses voisins européens et de pays comme les États-Unis, le contrôle de l'État sur cette épargne est plus élevé. Le taux d'épargne des ménages français a atteint 18% du revenu disponible brut fin 2024. Les placements financiers des ménages s'élevaient à plus de 6 000 milliards d'euros à fin 2024. Combien de zéros ça fait, petit Manu?
Oh là là, ça 6 000
milliards.
Oh là là.
Un certain temps.
Un certain nombre. Allez. Un certain nombre, voilà. Continue à te bien parler du panier, tu parlais très bien. On t'écoute tous les 7 tout.
Ah ben, les placements financiers, donc je le disais, des ménages s'élevaient à plus de 6 milliards d'euros fin 2024, soit une hausse de 1,7% sur un an. Les 20% de Français les plus aisés mettent en moyenne près de 16 000 euros par an de côté, c'est pas mal, contre seulement 350 euros pour les 20% les plus modestes. Pour répondre à ces questions, nous avons Nathaniel Ohayon, fondateur de France Épargne au téléphone. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, est-ce que les Français épargnent régulièrement en ce moment ?
D'après les chiffres, effectivement, les Français épargnent beaucoup. Évidemment, d'accord, avec les actualités, on a tendance à se dire, est-ce que, voilà.
Et quel type d'épargne existe-t-il ? C'est classé en fonction d'un certain type d'épargne ?
Alors, en fait, aujourd'hui, l'épargne, elle peut se décomposer, effectivement, comme vous avez dit, hein, par rapport à plusieurs types d'épargne. Donc, on a les livrets. Bon, alors, les livrets, c'est plutôt en banque, hein, c'est des choses qui sont, des épargnes qui sont assez courtes. Voilà, aujourd'hui, si on a besoin de mettre un petit peu d'argent de côté pour ses charges, on va effectivement utiliser tout ce qui est livret A, LDD, LEP, voilà. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est assez... c'est pour de l'épargne qui est assez court terme, on va dire.
D'accord.
Ensuite, on a plusieurs types d'épargne autres. Ça va être plutôt tout ce qui va être assurance vie, plan épargne retraite, ouais, les SCPI, les PEL de banque, etc. Donc, c'est de l'épargne qui va être plutôt sur des projets qui sont de moyen à long terme. C'est-à-dire que ça peut être un projet pour tout ce qui peut être pour un apport personnel, pour un achat immobilier ou alors pour de la succession ou vraiment pour une retraite qui va durer longtemps. Donc, l'assurance vie, c'est une alternative au livret, parce qu'elle permet effectivement d'avoir des meilleurs rendements. Le plan épargne retraite, bah, comme son nom l'indique, c'est dédié à la retraite.
Oui.
Et après, les SCPI, etc., bon, ça, c'est des sujets qui sont encore un petit peu différents. C'est du placement d'immobilier.
D'accord. L'or, c'est de l'épargne ou pas ?
L'or, c'est de l'épargne. Alors, il y a l'or physique. Dans chaque placement, il y a toujours un petit peu de risque. Donc forcément, si vous avez de l'or chez vous, physiquement, oui, bon, voilà. Ensuite, on peut passer sinon par des assurances-vie, en fait, dans lesquelles il y a des unités de compte qui sont exposées à l'or. Alors, une unité de compte, c'est tout simplement des fonds qui ont été structurés par des grosses compagnies et ils composent une unité de compte qui, elle-même, est composée de sociétés qui sont exposées à l'or. Et donc, forcément, on va pas acheter de l'or physique directement, mais on va venir acheter une unité de compte qui est exposée à des sociétés qui, quand l'or monte, bah forcément, leur valeur va aussi augmenter parce que leurs marges vont augmenter, etc., etc.
D'accord.
Donc, acheter de l'or physique, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a des alternatives dans la crypto parce qu'en fait, il y a un fonds qui existe, ça s'appelle PAXG, qui en fait est accolé à de l'or physique et ça, c'est le seul moyen sans aller aller l'acheter physiquement. Mais disons que eux, en fait, l'acquisition en montant d'or que vous faites, bah, ils le répercutent sur de l'acquisition physique.
D'accord, oui, c'est vrai parce qu'on a toujours l'image des lingots d'or. On se dit, si on se les fait voler, si on les perd, il faut les mettre dans une
c'est
banque.
Ça.
Et c'est vrai que je m'étais dit... c'est bizarre qu'il n'y ait pas quelque chose de dématérialisé. Bah, si, en fait, ça existait.
Et... ça existe, c'est tout nouveau. C'est effectivement tout nouveau. Alors, évidemment, là, ça a beaucoup augmenté sur cette dernière année, les deux dernières années. Hein. Je crois qu'on a quasiment atteint 100%. Il faut savoir que les unités de compte exposées à l'or peuvent prendre même plus en valeur. Parce que, en fait, comme c'est des sociétés, des fois, ça dépasse la valeur réelle de l'or.
Bon, c'est des domaines assez complexes. Hein. France Épargne accompagne les particuliers, mais aussi les entreprises hein, dans leur démarche d'épargne.
Tout à fait. On nous sollicite pour accompagner dans l'épargne, donc notamment par rapport à des placements d'assurance vie, de plan épargne retraite, dans lesquels on a déjà pas mal de choses à faire avec beaucoup d'unités de compte en fonction des différentes compagnies. On va essayer d'accompagner notamment sur le feeling de chacun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous le même horizon, on n'a pas tous les mêmes montants à placer. Donc forcément, chaque personne va être un petit peu unique dans son petit quotidien et ça se répercute aussi sur les choix dans l'épargne, évidemment.
Oui, parce que pour nous, quand on dit épargne, on pense forcément particulier, mais c'est vrai que les entreprises peuvent épargner du coup. Alors, c'est de l'investissement en gros.
Tout à fait. En fait, le particulier peut épargner, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'argent de côté, soit sur une assurance vie, soit sur un plan épargne retraite. Il y a un petit intérêt fiscal quand même sur le plan épargne retraite parce qu'on va pouvoir le déduire sur son revenu imposable.
D'accord.
Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi une solution pour les chefs d'entreprise, les professions libérales, les commerçants et les artisans. Parce qu'à travers ce plan épargne retraite, ils vont pouvoir déduire aussi un petit peu sur leur fiscalité d'entreprise. Donc, c'est un choix sélectif. Après, le particulier peut faire de l'assurance vie et du PER, mais le chef d'entreprise peut faire du PER et de l'assurance vie également. Voilà, c'est pas limité. D'accord.
Et idéalement, alors, il faudrait épargner quel pourcentage de notre salaire ?
Alors, sur le particulier, ça va effectivement dépendre des charges, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, que chacun est un petit peu unique. C'est que y a des personnes qui vont avoir beaucoup d'épargne sur leur salaire parce que effectivement ils vont pas tout dépenser, etc. Donc il y aura un revenu qui est disponible. Et d'autre part, il y a des fois des gens effectivement qui sont au taquet sur leurs charges. Et donc forcément, si on leur dit qu'il faut mettre 10-15% du revenu, après toutes leurs charges il reste plus que 5%, c'est pas viable. Vous voyez ?
Oui.
Donc en fait, sur le particulier, ça va vraiment être des questions qu'il faut se poser. Voilà, on va établir un petit peu un schéma avec la personne, parce que c'est vraiment au cas par cas. Pour les chefs d'entreprise, pour les professions un petit peu libérales, ça va être en fonction des résultats de l'entreprise. Donc là, effectivement, on peut tout de suite se positionner. On va dire que la coutume fiscale, elle est à peu près de 10% du revenu net.
D'accord.
Et après, on y va crescendo, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer la première année avec 7%, la deuxième avec 8%, la troisième avec 9%, 10%, on va jusqu'à 12%, évidemment, parce qu'il y a des plafonds, hein. Enfin, des plafonds de défisque, mais en tout cas, en assurance vie, c'est un petit peu comme on veut, comme il n'y a pas de défiscalisation sur l'assurance vie.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous conseiller une épargne, laquelle est la plus rentable à l'heure actuelle?
En fait, aujourd'hui, et c'est un petit peu mon positionnement sur l'épargne qui va être très particulier par rapport à l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui vont proposer de l'épargne, notamment les banques, les gros assureurs, sans les citer, les agents généraux qui ont effectivement qu'une chose à présenter. Il y a plusieurs types d'épargne, plusieurs types de gestion. Aujourd'hui, la gestion, et d'ailleurs, je pense que les personnes qui nous écoutent vont peut-être se poser la question d'aller regarder. La plupart, je dirais même 95% des Français aujourd'hui sont sur ce qu'on appelle une gestion pilotée. D'accord ? La gestion pilotée, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une gestion qui est mise en place par la compagnie ou la banque et qui sera très linéaire. C'est-à-dire que la banque va choisir des fonds dans lesquels vous allez être et ces fonds-là ne vont pas bouger pendant toute la durée de votre épargne.
D'accord.
Alors évidemment, vous vous doutez qu'aujourd'hui, les actualités économiques, les opportunités économiques se reflètent par des actualités, par un momentum, on appelle ça. Donc forcément, si vous êtes sur une gestion pilotée, vous ne dépasserez jamais 3% de rendement. Entre les frais, la linéarité du placement, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'opportunité saisie, on ne va pas aller chercher une opportunité sur l'or, par exemple, dans une gestion linéaire, il n'y a aucun fonds en or qui est mis en place. Donc, effectivement, on n'a pas cette opportunité sur l'or, ou alors sur la tech avec les allocations de Trump, etc. On va pas trop rentrer dans le détail.
Oui.
Donc ça, c'est la gestion pilotée, il faut regarder. Le 95%, je pense, de la France est en gestion pilotée. Pour aujourd'hui avoir un placement qui fonctionne et qui soit, entre guillemets, comme vous dites, optimisé, il faut tout simplement faire ce qu'on appelle une gestion libre. Cette gestion libre, on ne peut pas la prendre tout seul. D'accord, si on n'est pas dans l'activité, parce qu'effectivement il y a des enjeux, d'actualité économique, il y a des enjeux de connaissance des marchés, etc. Alors on va pas jusqu'à la spéculation, mais disons que pour optimiser un placement aujourd'hui, il faut être accompagné par un professionnel qui va flexibiliser justement et qui va modifier le placement au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des opportunités économiques que le monde nous offre. Voilà.
D'accord.
Et donc ça, on appelle ça la gestion libre. Et aujourd'hui, moi, personnellement, avec mes clients, je ne fais que de la gestion libre. Parce que, on se rend compte que, au bout de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, quand on n'a fait même pas 2% par an, on est mécontent. Et moi, aujourd'hui, je prends beaucoup de temps à expliquer ça à mes clients bien avant de faire une épargne pour que, justement, il y ait cet intérêt, cette écoute et qui nous permette à tous les deux, de développer une épargne avec des opportunités économiques.
Et les crypto-monnaies, alors ? Est-ce qu'il faut se lancer dedans ? Est-ce qu'il faut s'y connaître ? Parce qu'on entend des choses qui nous attirent, et puis en même temps, on entend aussi des crypto-monnaies qui s'effondrent. Est-ce qu'il faut vraiment foncer dans les crypto-monnaies en ce moment ?
Alors, la crypto-monnaie, c'est un sujet qui est très intéressant. Je vais vous dire très honnêtement, moi, aujourd'hui, sur mon portefeuille personnel en gestion, je suis plutôt à 100%. Sur mon portefeuille personnel en crypto, je suis plutôt à 0%.
D'accord.
En fait, la crypto, aujourd'hui, il faut savoir que c'est imbattable. Vous avez des ordinateurs qui, quand vous spéculez sur la crypto, vont venir vous battre. Et donc, c'est aujourd'hui imbattable. Le seul moyen de faire de la crypto, on va dire, en étant cohérent et sans vouloir spéculer ou essayer de faire des leviers, etc., très dangereux, parce que de toute façon, c'est des ordis qui vont venir vous, on appelle ça REC, qui vont faire perdre, en fait, votre position, c'est d'être récurrent dans son achat. C'est-à-dire qu'on va aller plutôt sur les grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum, Solana, il y a le BNB aussi qui a beaucoup augmenté. Mais on reste pas dans la spéculation. En fait, on va décomposer un portefeuille comme de l'assurance vie, mais sur de la crypto. Donc on va pas venir s'amuser à faire de la spéculation et faire de l'achat, de la vente, parce que le marché, il est impossible à battre. Par contre, on remarque que sur les 10 dernières années, le rendement moyen du Bitcoin, je crois qu'il est à 150 ou 200% par an. Donc vous auriez ne serait-ce que mis 100 euros par mois, vous auriez déjà un beau portefeuille. Donc en fait, il n'y a pas besoin de spéculer avec la crypto, il y a plutôt besoin de se créer une petite épargne. Donc ça fait partie, je pense, aujourd'hui du portefeuille fiscal de tout le monde, de mettre un petit peu de crypto. Donc effectivement, pareil qu'en fonction de l'épargne d'une assurance vie, on ne met pas 10%, on peut-être met 5% de son revenu. Tous les mois, linéaire. Soit on a de l'espérance que ça augmente, soit on n'y croit pas, on n'en fait pas.
Voilà. D'accord. Et il y a des épargnes ou il y a d'autres avantages, comme des avantages fiscaux ?
Tout à fait. Alors, on l'a évoqué au tout début, c'est le plan épargne retraite. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est le seul outil qui existe pour venir déduire de l'imposition sur un placement. L'assurance vie, c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire qu'en fait, on verse, mais il n'y a pas d'économie d'impôt. Le plan épargne retraite permet d'être déduit soit pour les chefs d'entreprise, professions libérales, etc., professionnels, sur le résultat net, soit pour les particuliers, effectivement, qui sont fiscalisés. Je donne un exemple, imaginons qu'ils gagnent 20 000 euros et qu'ils mettent 1 000 euros de côté chaque année. Eh bien, au lieu d'être imposés sur les 20 000 euros de revenus, ils seront imposés sur 19 000. Donc, en fonction du taux d'imposition, eh bien, on aura une économie d'impôt. Donc, imaginons qu'on met 1 000 euros de côté et que le taux est à 20%, on économise 200 euros d'impôt.
Ah oui, d'accord.
Bien souvent, on fait l'erreur de penser que c'est déductible directement sur l'impôt. Évidemment, ça serait trop beau. Donc, si on paye 1 000 euros d'impôt et qu'on met 1 000 euros de côté, on n'est pas à 0 euros d'impôt. Hein,
oui,
voilà.
Oui, on déduit.
Sinon, il y avait des solutions. Alors, ça s'est arrêté. Vous savez qu'avec la loi Pinel, bon, ça, c'était dans l'immobilier, on pouvait déduire une partie de l'acquisition. C'est fini. Donc, c'est très limité aujourd'hui, le gain fiscal. Alors, après, il y a dans l'immobilier aussi des montages financiers avec les travaux, etc. Mais disons qu'une déduction directe d'impôt n'existe pas aujourd'hui sur un placement, à part le plan épargne retraite.
D'accord. Et quelle est l'épargne que vous déconseillez absolument, la plus risquée ?
En fait, aujourd'hui, on parle toujours de risque, mais finalement, moi, je parle plutôt de risque vis-à-vis de notre caractère. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un caractère où on va vouloir spéculer, prendre des risques ou non ? En soi, je pense qu'il n'y a aucun placement ou aucune épargne qui est plus risquée que les autres
si nous-mêmes, on se met dans une dynamique prudente. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué pour la crypto, aujourd'hui, pour moi, ça peut être très risqué, comme ça peut être pas du tout risqué. Si on y croit, hein, évidemment. Si on pense que la crypto est amenée à disparaître, donc à ce moment-là, il n'y a pas de sujet.
Et disons qu'on pense que la crypto n'est pas amenée à disparaître, même si elle est très volatile, bah justement, ce comportement, entre guillemets, correctement, avec cette volatilité, donc en faisant des investissements très linéaires, donc par exemple 200 euros par mois et puis c'est tout, on s'expose pas à beaucoup de risques, vous voyez ?
Ouais, d'accord.
Donc un placement très risqué, je pourrais vraiment pas vous dire lequel, si ce n'est que en fait le risque vient de notre propre personne.
Est-ce qu'on peut épargner à l'étranger, prendre, je sais pas, une épargne dans une banque en Espagne, en Allemagne, ou même hors Europe ?
Tout à fait. Alors, il est possible d'épargner en dehors de la France, donc ça en fait c'est légal, bon. C'est légal, il faut juste que ce soit encadré. Il faut effectivement que lorsque vous allez investir, par exemple, sur un compte suisse ou luxembourgeois,
il faut tout simplement le déclarer à l'administration fiscale française.
Mais il est tout à fait possible d'épargner effectivement sur des sujets qui sont en dehors de la France. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle des comptes-titres étrangers. C'est pas très développé, je pense, mais il est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes se tournent vers des comptes luxembourgeois parce qu'effectivement, il y a une protection, on va dire, un peu plus... Voilà, on sait qu'en France, par rapport à certaines, peut-être, dispositions juridiques qui seront prises par le gouvernement, on a un petit peu peur. Donc, on a tendance à se tourner vers le Luxembourg. Mais bon, en fait, finalement, cette protection du capital, l'État peut quand même la saisir à partir du moment où votre résidence fiscale, elle est en France.
D'accord.
Donc, en fait, il n'y aura pas plus de précautions. On peut aller
vers des schémas en dehors de la France, mais on ne va pas pouvoir se protéger plus si on est affilié à la France.
Une dernière chose, par rapport à épargner dans d'autres secteurs du monde, bah, par exemple, sur l'assurance vie, vous avez accès à des fonds qui peuvent être japonais, chinois et américains. Vous voyez,
bah donc, oui, finalement, on n'y pense pas. Ouais.
On n'y pense pas, mais effectivement, à travers l'assurance vie, on peut s'exposer à des marchés américains, allemands, asiatiques, même australiens, même canadiens. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est très intéressant.
D'accord, ils ont des taux de rendement plus élevés que les nôtres.
Alors, en fait, c'est encore une fois en fonction des expositions qu'on fait. Donc, on peut s'exposer, par exemple, à la dynamique américaine sur la technologie. Bon, on va tous le citer, hein, c'est Nvidia. Bon, bah, forcément, quand vous avez pris un fonds qui est exposé tech US et qu'on a un peu de Nvidia, bah, votre fonds, il a fait, sur les 10 dernières années, 500%. Vous voyez ?
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est bien. D'accord. Merci, Nathaniel Ohayon, fondateur de France Épargne.
Merci beaucoup à vous. Voilà, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, on a un site, hein, vous le savez.
Qui s'affiche sur le podcast.
Compte-épargne.fr, qui est aujourd'hui disponible sur Google. Voilà, s'il y a des besoins, il y a un numéro, un mail. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou autres. Hein.
Environ 43% des Français jugent le montant de leur épargne insuffisant pour leur procurer un sentiment de sécurité financière. Parce qu'épargner, ce n'est pas seulement mettre de l'argent de côté, c'est se créer un filet de sécurité, une respiration, une marge de manœuvre face aux imprévus de la vie. Alors comment cette habitude, même modeste, peut changer notre rapport à l'avenir? C'est ce que nous explique aujourd'hui Ponari dans sa chronique. Épargner, c'est créer sa sécurité. Et retrouver la chronique bien-être...
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle ne voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois on a failli pleurer d'émotions.
La chronique bien-être de Ponari.
On parle souvent de l'épargne comme d'un effort, d'une privation, presque d'un sacrifice. Et pourtant, épargner, ce n'est pas se priver. C'est se protéger. C'est créer un espace de sécurité qui nous permet d'affronter l'imprévu sans peur et l'avenir sans panique. Parce qu'il faut le dire, ce qui nous fragilise le plus dans la vie, ce n'est pas toujours ce qui arrive. C'est ce pourquoi on n'est pas préparé. Une panne de voiture, un déménagement, une dépense de santé, une période de chômage, un projet qu'on veut lancer. Toutes ces situations deviennent lourdes, plus lourdes quand on n'a pas de filet. L'épargne, c'est ce filet. Ce n'est pas un luxe réservé aux privilégiés, c'est une habitude, parfois minuscule, mais puissante. On imagine souvent que pour commencer à épargner, il faut avoir beaucoup. C'est faux. On commence avec ce qu'on peut, là où on est. 10 euros, 20 euros, parfois moins. L'important, ce n'est pas la somme, c'est le réflexe. Parce qu'au fond, l'épargne, ce n'est pas d'abord une question de chiffres, c'est une question d'état d'esprit. Mettre de côté, c'est envoyer un message clair à soi-même. Je prévois, je me respecte, je construis ma sécurité. Et cette sécurité, ce n'est pas seulement financière, c'est émotionnel, c'est mental, c'est la possibilité de dire non à une situation qui ne nous respecte pas, de quitter une relation toxique, de faire face à un imprévu sans devoir s'endetter, ou simplement de dormir tranquille. Épargner, c'est reprendre du pouvoir sur sa vie. Il y a aussi une idée à déconstruire. Épargner, ce n'est pas bloquer son argent. C'est lui donner une mission. L'épargne peut servir à se protéger, bien sûr, mais aussi à se réaliser. Acheter un bien, financer un projet, partir en voyage, aider un proche, entreprendre ou changer de voie. Économiser, c'est semer des possibilités. Et puis, il y a l'effet psychologique. Quand on commence à épargner, même à petite échelle, on sent qu'on avance, qu'on construit. On n'est plus seulement dans la réaction, on est dans l'anticipation. Et ça change tout. Alors oui, on vit dans un contexte où le coût de la vie augmente, où les dépenses fixes pèsent lourd, où la tentation est partout, mais il reste toujours un geste possible, même minime, même symbolique, parce que l'épargne, ce n'est pas le montant, c'est l'intention. On ne met pas de côté pour se priver du présent, on met de côté pour ne pas avoir peur du futur.
Et pour ne pas se priver futur, oui. Nous, on est bien contents parce que moi, jeune, c'est vrai que la banque m'avait dit ça serait bien d'épargner. J'ai dit, mais j'ai quasiment pas de salaire. Elle m'a dit même 10 euros et tout. Et je me dis, mais 10 euros, c'est beaucoup par mois. Et finalement, je les ai pas vus passer, même quand tu n'as pas quasiment de salaire. Bah, je veux te dire que tu es très content quelques années que tu aies mis 10 euros par mois et que ça fait
Mais excuse-moi. Et il y a des intérêts en plus.
Ah bah oui, il y a des intérêts. Donc souvent les gens me disent ah oui, j'aurais dû le faire, j'aurais dû mettre même quelques euros parce que finalement ça change pas grand-chose même si tu as un revenu très bas, hein, c'est vrai qu'on les voit quasiment pas. Mm-hmm. Et puis bah à la fin tu es bien content quoi.
Ce qui nous manque beaucoup en France, c'est l'éducation financière épargner.
Ah oui.
Parce qu'aux États-Unis ils le font à partir de 18 ans, ils mettent un fonds pour les études.
C'est vrai qu'en France
on n'a pas ce réflexe-là.
Ils n'ont pas la même mentalité. C'est...
Tout ça pour vous dire, alors, si vous voulez commencer aujourd'hui, ne cherchez pas la perfection. Cherchez l'élan. Une somme simple, répétée, protégée. Et au fil du temps, vous verrez, comme l'a dit Didier, que ce n'est pas seulement votre compte qui change, c'est votre posture, votre confiance, votre sérénité. Épargner, ce n'est pas attendre la tempête, c'est construire son toit avant qu'elle arrive. Et c'est ça, la vraie sécurité.
Wow. Eh ben merci Ponari. En 2024, les ménages français épargnaient environ 7 300 euros par an. Ce montant reste supérieur au montant observé avant la crise sanitaire. Et vous, est-ce que vous épargnez, Marie-Christine ?
Oui.
T'as un petit PEL, un livret A ?
Ah oui, moi j'ai tout.
Ah, t'as tout ? Bon, et Kevin, tu épargnes ou pas ?
Oui, ça m'arrive, j'ai un livret de développement durable. Oui, donc oui, j'épargne tous les mois.
À tous les mois.
C'est ça, ouais.
Bah, moi, c'est un peu la même chose, sauf que c'est ma mère qui s'occupe les comptes. C'est un peu comme un
heureusement.
Humain.
Heureusement.
Heureusement.
Oui. Non, non, pas du tout. Mais je suis comme un.
Ah, si, si, si.
Oui, mais je dis pas.
Heureusement, parce que t'es un panier percé.
Comment bah, ça
change de tenue tous les jours et tout.
Ah, pas du tout. Ah. Moi, je ne fais que des économies. Tu me suis dit,
voilà, Marie-Christine, je pense qu'il offre beaucoup de bijoux et de restos aux jeunes
filles. Non,
non, non, pas du tout. Je pense attention. Que c'est son genre.
Ah, pas
vu,
du tout.
Vu sa générosité
oui,
et son éducation.
Oui, ben là, non, pas du tout.
Son éducation de grand seigneur depuis longtemps.
Ouais, je pense gentleman.
Je pense qu'il est très gentleman.
Oui, mais j'ai toujours été économe.
Il verrait juste sa ceinture. C'est tout.
Ah oui, non, ça, c'est
mais une ceinture dorée.
Vous en dites, je suis pas là. Ceci dit, je connais un quelqu'un dans le monde du showbiz, et du showbiz, et ben, il confie tout à ses parents, il veut rien contrôler. Donc, je ne suis pas seul à la télé-radio, c'est faisable. Donc,
tu fais quelques petites ententes, t'as offert des bijoux à des filles quand même.
Oui, mais de façon raisonnable. Je dis pas, je suis gentleman, mais de façon raisonnable. Ceci dit, moi, j'ai toujours été économe. Hein. Oh là là. Moi, je peux vous dire, j'ai vu des gens qui avaient un salaire, et ben, je connais des gens, ils dépensaient tout. Moi, j'ai toujours été économe, même si je suis un gentleman. Je peux vous rassurer, quoi.
Mon Ponari.
Ah, Ponari.
Alors, devinez.
Tu épargnes, voilà. Je suis sûr. Tu dois avoir
ouais,
quelques
Marie-Christine.
Produits d'épargne.
Je suis comme Marie-Christine, j'ai tout.
Ah bon, moi, j'imagine très prudent. Ah, ça m'étonne pas, j'en suis convaincu. Là. Ça me surprend absolument pas. Non, mais c'est fou, on apprend.
C'est une vraie éducation, en fait. Hein.
Bah ouais, non. Et j'ai l'impression, en t'entendant,
Ponari, elle s'appelle.
Oh non.
Ponari,
oh
là, moi. Oh. Ah. Ce qu'il va.
Et ben, lui, il épargne pas sa mémoire. Hein.
Ça rassure quelque part, on est un peu rassuré. J'ai l'impression, le beau message que tu nous as dit, les bonnes explications, ça rassure.
Bah, j'espère avoir motivé. Hein.
Ah non, mais complètement, tu nous as appris des choses et c'est fou parce que entre on sait les choses, mais entre ce qu'on sait et les bonnes explications, et ben on s'aperçoit que c'est tout l'inverse.
Mais par contre, j'ai peu confiance en l'État.
Ah,
on l'a senti dans ta chronique.
En l'État et en les banques, je non, pense qu'ils sont là quand même pour bien contrôler.
Chose, ça. C'est autre chose.
Alors moi j'épargne, et ce qu'il y avait de bien avec les livrets A, c'est une fois que tu as atteint le montant,
oui.
Il te verse des intérêts.
Ah ouais.
Mais du coup, la somme, parce que tu as un montant, tu
ouais,
as un plafond,
plafond,
c'est que du coup, la somme, même si elle atteint le plafond avec les intérêts, du coup, l'année d'après, tu vas toucher les intérêts sur cette somme totale-là.
Ah ouais.
Et ainsi de suite. Donc, ton montant ne va pas arrêter de grimper. Moi, bon, j'ai tout vidé, hein, parce que je fais des travaux. Donc,
ah bah ouais.
J'ai tout vidé les livrets. Voilà, c'est passé
travaux.
Dans les travaux. Et nous ouvrons notre page culture pop, musicale et télé. Et si vos chansons préférées devenaient un placement financier ? En 1997, le regretté David Bowie avait lancé les premiers Bowie Bonds. Ce sont des obligations adossées aux revenus de son catalogue musical. L'idée est de transformer ses chansons en titres financiers afin que l'artiste puisse toucher un capital. Près de 30 ans plus tard, ce marché pèse plus de 4 milliards de dollars et attire de plus en plus d'investisseurs. Cette forme de liberté économique séduit autant les stars internationales comme Shakira et Justin Bieber que les jeunes talents comme Emmanuel Ploquin. Non, pardon.
Oh non, mais chacun son style. Mais c'est vrai que c'est une règle. On peut pas faire autrement. Et on est tous à la même enseigne.
On va l'appeler le Manu Bonds.
Non, merci. Non. On est tous à la même enseigne. Alors, on va écouter Kevin. Je pense qu'il est venu nous dire des tas de choses très intéressantes. Hein.
Il y a aussi des artistes qui parlent de l'épargne. Est-ce que ça existe ? Alors, c'était un petit peu dur pour Kevin de trouver des chansons qui parlent uniquement de l'épargne et pas de l'argent en général. Reconnaîtriez-vous leurs chansons ? C'est l'heure de jouer au quiz de
Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu.
Oui, je vais me porter sur un truc.
Mais ils sont trop... Alors,
on l'a vu tout au long de l'émission, hein, l'épargne, c'est une question d'argent. Et l'argent, il en est aussi question dans les chansons que j'ai sélectionnées pour vous à l'occasion de ce quiz. À commencer par un célèbre groupe... Ah oui, Abba.
Et je crois qu'ils avaient même fait l'Eurovision aussi. Le groupe
exactement, Abba. Oui. Et d'ailleurs, ils avaient chanté une chanson à l'Eurovision. C'était un titre très connu. C'est, je crois, Waterloo, un truc comme ça.
Oui, je crois, voilà, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. On est bien d'accord.
Je crois que tu étais déjà né, mais tu étais petit.
Oh, sans doute. J'ai
la bataille de Waterloo ou la chanson?
La chanson.
Bah oui, j'avais pas dit. Non, mais tout très bien résumé, cher Kevin.
Et vous avez deviné le titre de cette chanson?
Money.
Qui veut dire petit Manu?
Bah, l'argent, justement. Tout à fait. Très fort. Vous ne pouvez pas mieux faire. Bravo.
Chanson de 1976 du groupe ABBA. C'est une chanson qui raconte l'histoire d'une femme qui a beau avoir un beau travail, elle a beau avoir de l'argent, tout ça, mais elle n'arrive pas à gérer ses finances. Et pour cela, elle voudrait se mettre avec un homme riche, tout simplement. Et c'est ce qui lui permettrait de vivre dans le confort et dans le luxe. Est-ce que c'est ce dont vous rêveriez parmi vous?
Tu rêverais de vivre avec un homme riche?
Non, ça serait plutôt une demoiselle. Non, ça dépend, parce que l'argent...
C'est comme la chanson.
Oui, non, pas vraiment, parce que l'argent, c'est une chose, mais après, faut avoir les qualités du cœur. Et des fois, ça peut travailler les personnes. Oh là là, j'ai eu des mauvais tours, hein.
C'est une bonne réponse, petit Manu.
Qu'est-ce que t'en penses, Maudari, qui donne une très bonne philosophie au
TikTok? Moi, je te rejoins là-dessus, ça sert à rien d'avoir de l'argent si derrière, c'est quelqu'un d'infect, quoi.
Et moi, Didier, des fois, il y a des gens... Vous savez, une qualité, c'est-à-dire que les gens, ils voient pas l'argent. Ils oublient tout le reste. Et c'est un nom spécial.
Tu te rappelles, petit Manu, quand il y a une dame très âgée, il faut le dire, qui t'avait dragué sur les réseaux sociaux, elle avait envoyé ta photo. Et elle a dit bonjour, jeune homme. Et t'as dit, mais oh, mon Dieu, mais quel exprès. Pour lui faire comprendre, tu as dit, mais mon Dieu, quel âge vous avez? Elle a dit, oui, mais je suis multimilliardaire. T'as fait, si jeune que ça?
Ah non, ça, je vais vous dire, j'aimerais bien que ça arrive, mais c'est la très bonne imagination de Didier, ça.
Tout de suite, t'avais changé de ton.
Non, ça m'est jamais arrivé. Ça, c'est Didier qui, c'est curieux, il a bien taquiné, et puis il dit des choses, ça pourrait arriver, mais c'est. Non, ça n'existe pas.
T'es pas un brouteur, quand même.
De quoi?
Tu n'es pas un brouteur.
Ah non, pas du tout. Ah non, je te rassure, il fait ça pour me taquiner. Mais des fois, on y croirait.
Mais il a un routeur, il capte le wifi.
Oh, alors là.
Ça, il y arrive, je sais pas comment.
Alors là, Marie-Christine, je m'incline, chapeau bas. Alors là, j'avoue, je préfère y aller. Reprends, parce
merci,
que
merci.
On redonne la parole. Il est très passionné.
Allez, on passe à un autre groupe. De qui il s'agit, à votre avis? Dans le nom du groupe, il y a Rose, mais en anglais.
Pink Floyd.
Pink Floyd,
oui, yes.
J'ai cherché.
Pink Floyd est effectivement avec cette chanson de 1973 intitulée Money, extraite de l'album The Dark Side of the Moon, qui est cette chanson Money qui évoque, une société obsédée par l'argent et aussi la cupidité qu'inspire l'argent. C'est aussi une manière de dénoncer le vide moral que l'argent provoque. Et que l'argent, il rend pas toujours heureux. Hein. Il crée aussi des divisions, de la solitude et du cynisme. Et on reste dans la vibe des années 70 avec un autre groupe. Alors c'est un groupe américain.
Ça, je l'ai entendu.
Un groupe de soul.
Dans le Prince de Bel-Air.
Ah, c'est possible, oui.
Avec Will Smith.
Et le titre, c'est Pour l'amour de l'argent, mais en anglais, comment ça se dit?
Argent
for the love of money.
Yes, voilà. C'est le groupe The OJ's.
Ah, c'est impressionnant.
Et cette chanson date de 1973. Alors c'est une chanson qui a l'air quand même un peu légère, mais qui dénonce aussi vraiment l'obsession de l'argent, le fait que certaines personnes doivent en avoir et que certaines personnes aussi en ont vraiment besoin. Ils dénoncent ceux qui font tout pour l'argent, etc. Ceux qui perdent leur âme en poursuivant la richesse. Et à travers cette chanson, il y a un message qu'ils veulent défendre, c'est que aimer l'argent plus que tout, ça mène à la corruption morale et à la perte de ses valeurs.
C'est poignant.
On perd son humanité, en fait.
C'est ça, oui. Complètement. Et on reste sous la thématique de l'épargne.
Sous la table. On n'y était pas, non.
Décidément, Didier, cette émission, c'est très émouvant. Il n'y a pas quoi qui me...
L'argent, ça rend fou.
Je ne sais pas pourquoi, ça crée une émotion, on est tous un peu troublés. Oh là là, je ne sais pas ce que ça nous arrive.
Et on termine avec une chanson plus contemporaine cette fois. Est-ce que vous allez reconnaître de quel chanteur il s'agit? I need a dollar, 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 that's what I need. C'est une chanson qui date de 2010.
Ah, c'est plus récent.
Je la connais, mais je sais pas l'interprète.
C'est un chanteur californien qui s'appelle Aloe Black. Et cette chanson s'intitule I Need a Dollar, qui veut dire
J'ai besoin d'argent.
Mais d'ailleurs, vous l'aviez dit tout à l'heure, tout au long de l'émission, notamment toi Didier, quand tu évoquais le fait que tu mettais, c'était arrivé il y a quelques années, mettre 10 euros là sur ton compte épargne.
Oui.
C'est que le fait d'avoir un peu d'argent, on va dire, en cachette.
La banque est au courant.
En cachette. Mais dans son compte épargne, je voulais dire. Parce que l'argent, c'est jamais en cachette.
Bah ouais.
Enfin, en cachette, sauf si tu caches ça sous ton matelas, quoi.
Non. Non, je vais même pas. Chez moi, je dois avoir 3 centimes. Dans la moquette, mais c'est tout.
En gros, je peux dire quelque chose qui résume bien la situation. C'était pas un chanteur, mais il y a une pièce de tête et j'avais joué pendant les vacances de. C'était Louis de Funès, là-bas.
Je vois. Avec Yves Montand, non?
Non, c'était avec Louis de Funès aussi. Louis de Funès.
Oui, mais c'était quel film?
C'est l'or, mon trésor.
Oui,
je confonds avec La Folie des Grandeurs.
Exactement. Et par rapport à ce que tu disais, très bien, bonne parole, et ben ça résume bien la situation. Moi j'avais après l'école, pendant les vacances, ça m'appelle des bons souvenirs. Voilà, je suis assassiné, mais qui suis-je? C'est moi. Voilà, ça m'appelle des petits souvenirs. Excusez-moi, je dis ça en tant que comédien acteur. Voilà,
tu devrais refaire un remake de
Non, mais je monte comme ça pour vous montrer, comme ça, que je suis un artiste aux grandes capacités, aux multiples talents. Voilà,
merci à tous.
Eh ben en tout cas, t'as dû faire une recherche de titan, vraiment. Bravo Kevin,
merci.
Que quand chose est bien, de nos jours, faut savoir reconnaître, n'est-ce pas Didier? Bravo en tous les cas.
Eh ben merci Kevin. On continue à parler d'épargne sur IDFM Radio jusqu'à 22h avec l'angle série télé. Se divertir et apprendre à gérer son argent, ces deux choses ne sont pas incompatibles. Que ce soit dans Les Initiés de Ben Younger avec Ben Affleck et Vin Diesel en jeune courtier ambitieux, en 2001 dans Money Monster de Jodie Foster, sorti en 2016 avec George Clooney en présentateur télé qui donne des tuyaux pour investir à l'antenne, ou encore dans le biopic Le Loup de Wall Street signé Martin Scorsese en 2013 avec Leonardo DiCaprio. Là encore, en jeune courtier sans scrupules, le 7e art décrypte la finance ou nous donne des leçons d'économie. Mais le petit écran n'est pas en reste et certains personnages sont particulièrement doués pour gérer un patrimoine et le faire fructifier. Alors, quels sont ceux sur lesquels il faudrait prendre exemple pour maximiser son épargne? À qui pourriez-vous confier votre argent pour assurer votre avenir? Stanis improvise conseillère financière ou plutôt conseillère de conseiller financier. Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran?
Je vous dis à plus les séries pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Enquête de Stani.
Ah, notre Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui est si jolie.
Parmi ceux qui semblent gérer l'argent à merveille et faire fructifier leur patrimoine et ou celui des autres, certains se distinguent particulièrement. On commence avec Chandler Bing dans une série dont je n'avais pas eu l'occasion de vous parler depuis bien trop longtemps à mon goût, Friends bien sûr. Pour rappel, 10 saisons, 236 épisodes de 22 minutes entre 1994 et 2004 sur NBC, dès 1997 sur France 2 puis sur TFX et à retrouver actuellement sur HBO Max. La série référence qui nous emmène à New York pour suivre les joyeuses péripéties professionnelles, familiales et sentimentales de la bande de 6 amis, Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey, entre leurs apparts et leur QG, le Café Central Park. Et dans la famille Friends, je demande Chandler Bing, interprété par le regretté Matthew Perry. Pendant les 9 premières saisons, Chandler est responsable informatique, analyste statistique et fait de la reconfiguration de données. Un job qu'il déteste et qui lui mine le moral, mais bien payé. En tout cas, il gagne plus d'argent que les autres membres de la bande. Même si aucun d'entre eux n'a jamais vraiment réussi à comprendre ce qu'il fait réellement dans la vie, Mais peu importe, Chandler est propriétaire de son appartement new-yorkais et paye quasi tout pour son colocataire comédien toujours en galère, Joey Tribbiani. Mais en plus, il est du genre fourmi dans l'épisode 2, saison 7, celui qui réglait le mariage, lorsque Monica, interprétée par Courtney Cox, et Chandler planifient leur mariage. J'espère ne spoiler personne, mais en même temps, si vous n'aviez pas encore vu la série et comptiez la regarder un jour, il serait temps. Ce dernier révèle que les économies qu'il a de côté correspondent exactement à la somme nécessaire au mariage de rêve imaginé par sa future épouse. Même si on ne sait pas précisément de quelle somme on parle, vu les envies luxueuses de Monica, on imagine bien qu'elle est assez conséquente. Seulement, contrairement à elle, Chandler ne veut pas tout dépenser pour un seul événement. Il préfère une cérémonie simple et plutôt faire des projets d'avenir avec elle, comme acheter une maison, par exemple. Une différence de point de vue et de façon de dépenser l'argent, source de conflits, comme au sein de pas mal de couples dans la vraie vie, d'ailleurs. On remonte le temps et on poursuit avec le personnage de Tom Branson dans la série dramatico-historique britannique à succès et multi-récompensée qui se poursuit en long-métrage, Downton Abbey. 6 saisons, 52 épisodes de 50 minutes entre 2010 et 2015, la série et les films sont à voir sur Disney+. La série So British nous plonge dans les années 1910-1930, où l'on suit la vie de la famille Crowley et de leur domestique au sein de la demeure anglaise de Downton Abbey. Elle débute en 1912 avec le naufrage du Titanic, dans lequel périssent les héritiers de Robert Crowley, comte de Grantham, laissant la famille sans héritier mâle et par conséquent l'avenir de Downton Abbey plus qu'incertain. Sans commentaire, mais je vous rappelle que nous sommes au début des années 1900. Thomas T. Tom Branson, joué par l'acteur irlandais Aidan Leash, est un personnage qui évolue considérablement tout au long de la série. Parti de rien, ou presque, au départ simple chauffeur à Downton Abbey, grâce à sa capacité d'adaptation à des milieux sociaux variés et sa compréhension des enjeux sociaux et économiques, il devient gestionnaire de patrimoines immobiliers et financiers, notamment des terres de Downtown, ainsi qu'un homme politique prospère. Voilà, vous savez de qui vous inspirez et ce qu'il vous reste à faire si vous voulez faire des économies et assurer financièrement votre avenir. Bon, après, il y a bien d'autres exemples, hein, notamment des séries sur le milieu de la finance, mais avec des pratiques souvent plus ou moins douteuses et pas toujours très légales. Alors, sur ce, que de votre côté, vous soyez plutôt cigale ou plutôt fourmi, je vous dis à plus les Sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani. On termine cette émission par de...
La culture pop avec une charabie Eric.
Sur le sujet de l'épargne, nous pouvons dire que l'univers de la pop culture nous donne de bonnes leçons. Tony Stark, le personnage des comics Iron Man, a beau être un génie, mais sa richesse construite en partie par son père s'est faite en épargnant les bénéfices récoltés de Stark Industries. Bruce Wayne de la saga...
Ah bah c'est de Batman, voilà. Et Robin.
Quant à lui, a su jouer avec les intérêts financiers pour mieux les épargner. On pourrait en dire encore plus sur d'autres comme Largo Winch par exemple. Mais celui qui surpasse en matière d'épargne, c'est notre cher et irremplaçable...
Je ne sais pas de qui tu veux...
Oncle
Benz. Non.
Oncle
Picsou. Mais le problème avec Picsou, c'est qu'il ne va pas nous les rendre.
Ah non, bah non, Picsou ne va pas nous les rendre.
Il est là le problème.
Ah oui, l'oncle Picsou.
Eric nous décrypte la richesse de ce personnage afin d'en savoir plus sur la recette de Picsou pour épargner.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant. Il vaut 10 milliards en euros, dollars. Picsou, en suivant Fifi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. Dans son coffre fort, il compte son or. Picsou, Picsou, il est un goût des lingots, Picsou, Picsou. En plus de sa fortune, il voudrait la lune, Picsou. En suivant Fifi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche foie de canard, le plus chiche, le plus. Le plus gris, le plus gris, Picsou, Picsou.
De son vrai nom, Scrooge McDuck, devenu Balthazar Picsou, l'oncle de Donald Duck est très connu pour sa richesse depuis sa création par l'auteur Karl Barks en 1947. Il est aussi connu pour être avare et surtout inspiré du personnage Ebenezer Scrooge de l'œuvre Un chant de Noël de Charles Dickens. Souvent accompagné par ses petits-neveux Riri, Fifi et Loulou, l'oncle Picsou commence à être au premier plan dès 1952. Ses aventures ont été longtemps racontées en bande dessinée et ce n'est que dans les années 80 que l'on peut le voir à l'écran, puis avec un long métrage dans les années 90 au cinéma. L'épargne de Picsou se passe dans son coffre-fort créé par l'architecte Frank Lloyd Wright, qui est aussi, il faut le dire, une caisse des dépôts. Picsou y vit donc, son argent travaille et lui aussi. Par exemple, il y a des pièces à vivre ou encore des sanitaires, un ascenseur privé et même des escaliers pour les employés qui y travaillent. Ce coffre, se situant sur la colline King Motor à Donaldville, contient la grosse fortune de notre canard milliardaire et a pu faire fructifier avec le temps. Malgré les tentatives de vol des Raptous ou de Mystique, Picsou protège son coffre grâce à de nombreux pièges conçus par GeoTrouve-Tout. Et si c'était cette protection le secret d'une épargne, peut-être devrions-nous songer à faire la même chose pour nos fameux livrets, même si leurs taux ne sont pas si avantageux que ceux de la fortune du milliardaire de Donaldville. Entrons dans les détails et voyons le secret de ces épargnes, même si être radin ne suffit pas. On commence par le premier étage car le rez-de-chaussée et sous-sol ne contiennent que des pièges, pas bête le canard. Le premier déborde des lingots en trois salles, la première pour le lingot d'or, la deuxième pour le lingot d'argent et la troisième pour les lingots en platine. Au deuxième étage, on y trouve 14 salles de pierres précieuses. Au troisième étage, on y trouve des papiers de banque dont des bons de trésor. Le quatrième étage n'est pas très intéressant, on y trouve une salle pour le courrier, un standard et une salle radio, un peu comme IDFM Radio, tiens. On chercherait presque Petit Manu. De la 5e au 9e étage, on y trouve des employés de Picsou qui travaillent sur la bourse. Au 10e étage, de Monsieur Picsou, au son bureau avec l'accès principal du coffre dont la combinaison n'est connue que par notre cher Balthazar. Il reste donc un dernier étage, et pas n'importe lequel, c'est l'appartement où vit Picsou. Les différentes aventures de Picsou reflètent bien l'économie. En 2022, pour les 50 ans du personnage, le journaliste Jean-Louis Deloro écrit un article pour BFM sur les grands concepts économiques de Picsou. Il y aborde aussi bien la création monétaire et l'inflation que la circulation de l'argent, la croissance en passant par les valeurs d'échange et valeurs d'usage. Promis, amis de la pop culture, je vous laisse le lien sur le site de Big Moon Session. Un article de 2011 du journal Le Figaro indiquerait que Picsou est presque aussi riche que Bill Gates. L'article indique que sa fortune s'élèverait à 44,1 milliards de dollars selon l'estimation calculée par le magazine Forbes dans son 6e palmarès des 15 personnages de fiction les plus riches du monde. Pour conclure et vous donner les bonnes pratiques pour épargner d'après les méthodes de Balthazar Picsou, être à l'affût de toute forme de richesse, être radin, faire travailler ses intérêts et en épargner, s'entourer de spécialistes. Bon, je m'arrête là car la liste est assez longue, je vous avoue. Sur ce, amis de la pop culture, portez-vous bien.
Merci Eric. Et cette émission sur l'épargne, c'est déjà fini. Si vous avez loupé le début de l'émission, si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbankstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite le proverbe français suivant. Qui n'épargne pas un sou n'en aura jamais deux.
Ah, oh bah là, ça
alors là, dire, ils là, savent là, compter.
Ça veut tout dire, oh là là, c'est clair, net et précis.
Salut à toutes et à tous, la semaine prochaine on se retrouve sur IDFM avec un nouveau thème.
Oh là là, ça va bien s'amuser. Ouais. Oh là là, ça va.
Bah c'est quoi?
Sur les célibataires.
Bah les célibataires.
Bah les célibataires, on sera là. On va vous en parler, on va pas s'embêter.
Est-ce que tu es célibataire?
Oh, dis-moi, t'as topé quelle couleur, Kevin? T'as quelle heure, s'il te plaît? Non, je répondrai en posant de mon avocat. À la semaine prochaine. Ça peut parler, les bavards.
Peut-être que Petit Manu, la semaine prochaine, ne sera plus célibataire.
Je vous tiendrai au courant. Oui. Voilà. On va bien s'amuser. Non, excuse-moi, Kevin. Ça peut parler, les bavards.
Une semaine pour trouver. Top chrono.
Voilà, voilà.
Rendez-vous la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, on va pas s'embêter.
Salut voilà. À toutes et à tous.
Salut.
Et merci de m'avoir posé la
et
question.
Et attention à votre argent.
Voilà, soyez prudents.
Surtout avec les célibataires.
Ah bah tiens, ça peut se
débrouiller. Ok, let's stop.
IDFM Radio, 98 FM.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.